Oui.
Moi, je voudrais vous demander, merci pour la présentation, en tout cas, pour le travail que vous avez fait déjà. Je sais qu'à l'époque, il y avait un guichet physique chez vous aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre réflexion d'accessibilité?
Exactement.
De remettre en place quelque chose.
Ouais, mais donc maintenant il y a différentes choses auxquelles on est attentif, hein, vraiment pour veiller être accessible un maximum à tout public. Donc on va, à mon avis, remettre en place une permanence physique parce qu'on trouve ça important, rien que pour se rendre disponible et si possible dans les différentes antennes. Donc on a différentes antennes, entre autres à Namur aussi, hein, Charleroi, etc. Et donc de pouvoir, en tous les cas actuellement, comment ça peut se faire? C'est de faire pour le moment encore un signalement, soit par téléphone, soit au travers du formulaire en ligne, et de préciser qu'il y a un besoin de prise de contact en personne physique, et si possible, à proximité. Donc de fait, on ne va pas faire venir des personnes de Liège jusqu'à Bruxelles. Après, il y a d'autres points d'attention qu'on a aussi, c'est, entre autres grâce à la sensibilisation qu'on a reçue de réécrire, c'est qui est dorénavant sur notre site internet qui est en construction actuellement, c'est vraiment qu'il y ait directement, de manière très visible, bah, le numéro d'appel téléphonique, une belle icône sur laquelle on peut cliquer et téléphoner assez rapidement, quoi. Autre chose qu'on tente de mettre en place, et ça fait quelques mois malheureusement que c'est toujours pas mis en place, c'est d'avoir un partenariat spécifique avec Relais Signes pour les personnes qui pratiquent la langue des signes, qui sont sourdes et malentendantes. Voilà, ça, c'est compliqué au niveau des échanges, de la mise en place du contrat de collaboration, mais c'est dans les scopes, c'est actuellement, on y travaille. Mais donc oui, on doit faire encore du travail nous aussi pour nous rendre le plus accessible possible.
Dans notre travail, c'est aussi de sensibiliser les personnes, de leur dire voilà qu'il y a des services comme ça qui existent, et de leur permettre aux personnes de se rendre. Donc c'est bien, je pense qu'on va... On va répondre effectivement à cette collaboration et c'est aussi voilà, important pour notre public de rassembler, de connecter tous ces cas qu'on entend en fait dans le cadre de nos cours, de nos permanences. Mais c'est aussi important de pouvoir dire aussi à la personne que vous pouvez aller à cette voilà, de faire cette démarche-là par vous-même parce qu'il y a ce service-là qui est.
Et vous avez aussi un rôle essentiel parce que de la sensibilisation qu'on avait eue, on se rendait pas compte à quel point ben, les personnes analphabètes illettrées pouvaient elles-mêmes se sentir entre guillemets un peu responsables, coupables d'un manque de capacité d'écriture, de lecture, et ne pas remettre la société en compte, donc ne pas pouvoir envisager qui se retrouvent en fait dans une situation de discrimination. Donc là, vous avez aussi certainement un rôle à jouer, et nous, voilà, on en a un peu plus conscient, sans doute, aujourd'hui. Et donc, on va être vigilant à ça.
Tout à fait. Et pour vous, c'est vous qui allez prendre en charge le dossier de la nationalité. C'est bien sûr quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, et notamment, du coup, c'est constitutionnellement. Et là, on attend effectivement ce qu'on aurait comme réponse par la justice. Enfin, on aimerait bien, si vous avez des textes par rapport à cette loi aussi, donner un avis, par exemple, ça sera nous intéressant aussi beaucoup d'avoir
Monsieur Politique va vous répondre.
Mais oui, on va. Donc voilà, vous avez mon adresse mail ici, et donc c'est vrai qu'on va voir un peu où ils en sont, et je pense pas qu'il y ait de texte actuellement.
Ce qui s'est passé, mais ça je l'ai appris ce matin, donc je peux
expliquer,
mais j'ai pas été voir encore les textes. Apparemment, ils avaient pris un texte, mais en disant que le fait d'être analphabète ou illettré devait être défini par les communautés. Donc ils se renvoyaient la patate chaude, et ça, c'est pas passé. Hein?
Okay.
Patate chaude, ça va?
Ouais, c'est trop bien.
et ça a fait que le texte n'est pas passé, parce que les communautés... Ça voulait dire qu'on n'allait pas avoir la même possibilité d'acquérir la nationalité en fonction de la communauté dans laquelle on se trouvait. Enfin, ça n'a aucun sens. Et au lieu de faire sauter juste ce petit passage-là, ils ont tout fait sauter. Donc le texte n'est pas passé, donc maintenant, on va demander le texte. Et ça, en fonction du fait qu'ils nous disent ce texte, c'est juste entre nous ou rien, je crois que ça nous permet de le partager ou pas.
Oui.
Et quelle est votre position, en tant qu'humain, par rapport à qu'est-ce qui serait acceptable dans ce texte-là ? Donc, c'est de ne plus qu'il y ait d'obligation de prouver sa langue ou de l'écrit.
Oui, c'est de, que la langue ne prouve pas l'intégration.
Ouais.
C'est ça, votre position ?
Que nous, en tout cas, qu'une personne, voilà, elle peut très bien avoir des contacts avec sa communauté d'accueil, en parlant oralement, donc elle peut comprendre, elle peut, puisque souvent, voilà, on a des personnes qui professionnelles qui travaillent, qui participent à la communauté d'accueil, comme tout autre citoyen. Mais on sait effectivement des difficultés avec la littérature, on sait très bien que c'est long, que c'est un processus qui est long pour pouvoir arriver à ce niveau A2, même s'il peut sembler pour certaines personnes, mais pour des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une scolarité de ça, c'est un long parcours et n'y arriveront pas. Et d'autant plus qu'à Bruxelles, il y avait un test qui se faisait par écrit, maintenant vous avez dit que le test se fait aussi par ordinateur. Donc,
ouais, on rajoute la difficulté à la difficulté.
C'est ce qui se fait que là, pour aussi. Mais donc, oui, pour nous, ce serait effectivement. Ça ne doit pas être un critère, et surtout après 10 ans, c'est joué aussi en Belgique.
Bien sûr.
Encore, c'est ce problème.
Donc, la position du NIA, elle n'est pas encore officielle et en interne, elle n'est pas encore montée jusqu'à la hiérarchie, mais la Cour constitutionnelle s'est positionnée. En fait, quand la Cour constitutionnelle se positionne, une IA ne va pas venir trop faire le malin en disant « ouais, mais quand même... » Donc la Cour constitutionnelle, elle dit, ce qui est assez restrictif, ce sont les personnes qui ne peuvent pas prouver... Non, qui peuvent prouver qu'elles n'arriveront pas à atteindre ce niveau qui pourraient échapper à ce test. Je pense que la position va être... Notre position à Myria et une IA ensemble va être de dire... On tente que les personnes qui peuvent démontrer, c'est de savoir par quel moyen, qu'elles soient analphabètes ou illettrées, n'aient pas à passer ce test. Ça, c'est le plus simple. Et c'est dans ce sens-là, on a vu passer une demande de parquet. C'est un peu dans ce sens-là que vont les parquets. En tout cas, il apparaît quand même. Mais on n'ira pas jusqu'à dire. Enfin, aller plus loin en disant, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce niveau A2 ? Est-ce qu'il faut vraiment prouver l'acquisition d'une langue pour montrer qu'on est intégré ? Des considérations plus politiques, ça, on y
va. Madame, si vous voulez poser une question.
Oui.
Oui, je voulais poser une question par rapport au FALC, on peut essayer de le faire comprendre. Donc, pour les personnes notamment qui ont un handicap intellectuel, ça peut être adapté. Et donc, je me demandais si ça pouvait être quelque chose intéressant à mettre en place pour vous. Et donc, moi, au sein de ma... dans l'association, on représente les personnes sourdes. Donc, certaines personnes n'ont aucune difficulté avec la langue écrite, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, on réfléchissait à cette notion de FALC. Est-ce que ça peut être une solution pour les personnes qui ont des difficultés avec la langue écrite ?
Tu veux répondre ?
Mais de fait, le FALC est pour nous quelque chose d'assez aussi primordial, entre autres par rapport à notre site internet, mais aussi pour vulgariser et rendre accessible un maximum de formations, de sensibilisations, les recommandations qu'on transmet, etc. Et donc, vendredi, il y a une bonne partie de l'équipe qui démarre la formation FALC avec l'ASBL Inclusion. Parce que voilà, c'est nouveau, ça fait partie de l'accessibilité, c'est de pouvoir communiquer en langage, facile à lire et à comprendre.
Donc c'est on va... ça, FALC, pour le...
Ouais, pardon, oui, pour peut-être pas expliquer la base. Mais donc, c'est vraiment faciliter la compréhension dans des contenus écrits, principalement, et donc de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et quand je dis au plus grand nombre, en fait, c'est les personnes qui ont certaines difficultés de raisonnement, de compréhension, certaines difficultés à la lecture, et donc ça peut toucher des publics analphabètes, mais ça peut aussi toucher des publics cérébro-lésés, qui ont des lésions cérébrales, des publics de personnes qui ont un handicap mental léger, modéré, sévère, etc., etc. Donc vraiment, c'est d'avoir une communication avec un langage le plus accessible à tous.
D'ailleurs, à la dernière formation, il y a une de vos collègues de lire et écrire qui m'a dit qu'elle allait mettre ce PowerPoint en FALC.
Ah oui.
Ouais, et j'ai sauté dessus en disant « Ah, mais je suis hyper intéressée de le faire avec toi. » Donc peut-être que vous allez recevoir le PowerPoint. Mais elle m'a dit qu'elle avait d'autres projets en cours, donc si quelqu'un est intéressé sur le court terme...
Ouais, tu peux savoir qui c'est ?
Je ne connais pas son nom. Je peux te la décrire.
J'ai suivi une formation au FAC aussi il y a quelques semaines et c'est un sacré travail.
Mmh. Ah ouais?
Et non.
Ah ouais, à ce point-là.
Okay. Il faut vraiment tout repenser. Mais c'est très intéressant et on réfléchit aussi à ça.
Oui, juste, je vais préciser peut-être un petit peu ma question par rapport au FALC. Est-ce que vous voyez ça comme une solution ou non pour les personnes qui ont des difficultés avec la langue écrite? Parce que, en fait, j'ai une crainte par rapport à ça. C'est que, donc, effectivement, pour certains publics vulnérables, de manière générale, sont ou non. On a tendance à mettre en place le FALC en disant, mais c'est bon, la solution est là, tout trouvé, et ça a des responsabilités pour potentiellement les gens mettre en place des guichets ou ce genre de choses. Donc, c'était ça ma question. Est-ce que c'est pour vous une solution adaptée parce que pour solliciter l'information sur les droits des personnes, en général, c'est beaucoup de choses qui sont encore sur Internet. Donc, même si c'était accessible en FALC, est-ce que c'est
moi, je peux répondre si...
Vas-y.
Pour nous, c'est une des solutions, mais c'est absolument pas l'unique solution. Et dans nos recommandations, c'est l'humain. On veut qu'il y ait de l'humain et on veut qu'il y ait un capital humain qui soit là de travail pour répondre aux questions, suffisamment d'humains, suffisamment accessibles, avec des heures d'ouverture qui soient larges, pas un téléphone qui sonne pendant des heures, etc. Ça, c'est le numéro un. Et d'ailleurs, à la formation précédente, il y a aussi quelqu'un qui me disait c'est un mauvais calcul, le calcul qui est fait de penser qu'il y a moins de coûts quand on digitalise. En fait, on reporte le coût ailleurs. La société, par exemple, la société privée qui va digitaliser va peut-être licencier 2 personnes, mais qui est la personne qui va remplacer l'humain qui était là à l'époque? Et c'est pour l'instant les services publics, et quand les services publics en peuvent plus, c'est le milieu associatif. Et on a vraiment reçu beaucoup d'indications du terrain qui dit on n'en peut plus, on ne fait plus notre boulot. En fait, on aide les gens à remplir des formulaires et il y a vraiment une problématique. Et donc, on a déplacé en fait le coût humain quelque part. Et ça, on dit non.
Je voulais te demander, l'autre fois, à la séance précédente, tu avais parlé des preuves et notamment des enregistrements. Et je trouvais que c'était intéressant que tu le redises.
La discrimination, le gros problème, c'est la preuve. Et c'est pour ça, hein, quand Sébastien vous disait, on a je ne sais pas combien de milliers de signalements, et finalement, il y en a peu qui en arrivent en dossier. Un, c'est parce qu'on ne sait pas toujours ce que c'est la discrimination, il y a le sentiment. Deux, parfois, on n'est pas compétent. Une des choses où on n'est pas compétente et les gens ont de la difficulté à comprendre, ce que je comprends tout à fait, c'est qu'il y a discrimination si c'est la personne qui rend le service qui dit non. Mais si c'est la personne qui demande un service qui dit non, là, il n'y a pas de discrimination. C'est celui qui donne le service qui ne peut pas discriminer. Ce n'est pas celui qui demande le service qui ne peut pas discriminer. Donc, par exemple, une femme qui dit « moi, je vais être soignée que par un homme », ça, ce n'est pas de la discrimination. Parce que c'est elle demande le service. Ce qui est important, c'est que les services soient donnés, pas qu'il y ait un refus dans la demande. Et une autre raison, c'est qu'on n'a pas de preuve. Donc, il y a plein de gens qui viennent nous dire « j'ai été discriminée, je suis noire, on m'a refusé un logement ». Oui, statistiquement, tout à fait possible. Au niveau du logement, les critères de discrimination, c'est 1, la fortune, 2, les critères raciaux, 3, le handicap. Donc, on sait qu'il y a d'énormes chances que vous ayez été discriminé. Mais nous, sans preuve, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va interpeller l'agence immobilière qui va dire « mais enfin, pas du tout, je ne suis pas raciste, n'importe quoi ». Et voilà, on n'aura servi à rien, à part aller embêter un peu une agence immobilière qui va devoir nous répondre, mais c'est tout. Et donc... comme c'est très difficile de prouver la discrimination, la législation met en place une possibilité d'apporter une présomption de discrimination qui entraîne un glissement de la preuve, de la charge de la preuve. Donc ça veut dire que nous, on amène quelque chose qui pourrait dire « là, il y a quand même bien peut-être une discrimination, ce n'est pas une preuve écrite, c'est quelque chose qui dit que… » Et alors, il va y avoir un glissement de la charge de la preuve et c'est à la partie adverse de démontrer qu'elle n'a pas discriminé. Et ça, c'est chaud de démontrer, de prouver un fait négatif ou une action négative. Et les choses qui peuvent entraîner ce glissement de la charge de la preuve, c'est notamment les enregistrements. Et donc, oui, on peut enregistrer les conversations téléphoniques, on peut filmer les interactions dans lesquelles on est. C'est vraiment accueilli par la jurisprudence. On a des super décisions de la Cour d'appel de Bruxelles qui le dit. Il y a la Cour de cassation avec l'arrêt Antigone qui accepte. Donc, c'est accepté. N'hésitez pas à le dire à votre public. Vous pouvez, quand vous appelez pour louer quelque chose, enregistrer toujours, en fait. C'est tout à fait possible qu'au téléphone, on vous dit « ouais, non, CPS, on ne veut pas, clic. » Bam, vous avez la preuve. En fait. Et ça, nous, on l'utilise dans nos dossiers. Hein. On ne dit pas nécessairement qu'on a un enregistrement au début, comme ça on va nous dire, mais non, jamais, jamais, et puis pouf, on envoie la On est un peu
distrait.
Mais donc, ça, c'est vraiment ce qui nous aide à pouvoir aller dans les dossiers et à pouvoir aller plus loin. Et sur notre site, on a développé une petite méthodologie de testing. On l'appelle méthodologie de testing, mais c'est un peu, c'est assez logique. C'est qu'on se rend compte, en tout cas pour la discrimination raciale, que ça, quand même, on ne le dit plus. Autant on y va franco, CPS, chômage, on n'en veut pas, ça reste encore très très... Les gens disent, ça c'est pas de la discrimination, ça l'est complètement, mais voilà. Autant le racisme, ça devient quand même difficile à dire de façon plus formelle. Et donc les gens disent, par exemple en matière de logement, bah non c'est déjà loué. Et donc les testings, ce que c'est de... les tests de situation, c'est d'envoyer d'abord un mail, la personne qui a le critère envoie un mail, on lui dit, bah non, c'est déjà loué. Et elle demande à un pote qui a un nom, par exemple, bien belge, bien soulevé, envoie un mail, et là on lui dit, bah oui, venez à la visite demain à 14h. Présomption de discrimination. Et donc, c'est à l'autre partie de démontrer qu'elle n'a pas discriminé, de justifier la raison pour laquelle à un, elle dit non, et à quelqu'un. Donc il y a plein d'éléments qui nous permettent vraiment d'intervenir. Les enregistrements, c'est topissime. On a gagné vraiment des beaux dossiers discrimination logement grâce aux enregistrements.
On peut enregistrer un étude d'affection.
Oui, c'est une croyance. C'est vrai, eh ben, c'est faux.
Les agents immobiliers disent non, on ne peut pas, mais si, on peut.
En fait, quand vous êtes dans la discussion, vous pouvez enregistrer. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est enregistrer une conversation qui se passe dans laquelle vous n'êtes pas censé être, et là, vous laissez ni vu ni connu un téléphone et vous partez. Ça, ce n'est pas reçu en justice. Par contre, si vous êtes dans une conversation, vous pouvez filmer, enregistrer tout ce que vous voulez. On a vraiment aussi un dossier dans lequel la personne filme tout le temps. Et donc l'agent immobilier dit, c'est pas mon droit à l'image, je suis filmée et tout. Ben non, en fait, c'est juste pour prouver la discrimination. Par contre, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux avec ces enregistrements, parce que oui, là, il y a vraiment un risque de diffamation. Ça, c'est... Mais juste si c'est dans le cadre d'une procédure pour prouver la discrimination, pas de souci. Évitez le port de faux noms. Ça, c'est pas non plus le port de faux noms. Donc, de dire je m'appelle un tel pour essayer de. Vous voyez, dans cette test, je vous disais, le port de faux noms, c'est pas non plus le top. On n'a jamais eu de procédure, mais c'est une infraction pénale.
Et comment faire le testing alors?
Eh bien, pour l'instant, j'ai un dossier. La personne a écrit, on lui a dit le bien est loué. Il a demandé à un pote qui s'appelait Peters, je pense, d'écrire. On lui dit oui, rendez-vous demain à 14h. Il a les deux emails, présomption de discrimination.
Un vrai Peters.
Oui, il a demandé à un pote. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir un peu de réseau, ce qui est hyper, de nouveau, c'est des personnes qui ont des ressources, quoi, qui peuvent faire ça.
Et il faut que les situations de chacun soient plus ou moins comparables.
Mais ici, il n'y avait même pas de situation, il demandait le rendez-vous.
Ouais.
Il n'avait même rien. C'était juste le nom qui faisait qu'on avait un rendez-vous ou pas. C'était vraiment du racisme pur et dur. Et alors, ce qui existe maintenant par rapport à ces testings, c'est que, et à Bruxelles, la direction logement, là, les inspecteurs du logement, et en région Wallonne, depuis le 1er janvier 2024, peuvent faire des testings. Donc là, ici en région Wallonne, ils vont commencer à recruter et à former des agents qui vont aller tester le logement au niveau de la discrimination. On va pouvoir faire des signalements chez eux et ils vont faire des testings et puis, pam, amende. Ils iront même pas en justice, eux, ça sera donner des amendes à Bruxelles, ils donnent des amendes comme ça.
Oui. Ouais.
Mais alors, dans ce cas-là, l'amende va pas au profit de la victime, contrairement à nos procédures. Nous, quand on va en justice, la victime, elle reçoit des dommages et intérêts pour avoir été discriminée. Pour l'instant, au niveau des biens et services, ils sont nuls, ils sont à 1300, mais à Bruxelles, ils vont tripler ou quadrupler, ça va être vraiment bien. Et en emploi, c'est 6 mois de salaire. Donc c'est quand même des beaux montants, quoi. Ça, si c'est l'inspection du logement, c'est juste une amende. Ça embête le propriétaire, mais la victime ne reçoit rien. Oui.
Au compte de la nationalité, j'ai pas bien saisi en fait à quel moment il va y avoir un texte et qui va juger que ce texte est correct et non discriminant et avec quel outil et est-ce que vous avez des noms, enfin qui va s'en occuper parce qu'en fait. C'est assez... Y a les personnes qui sont clairement analphabètes, à zéro, partout, mais il y a des personnes aussi qui sont à la limite, qui sont à la limite du A2, mais qui n'arriveront jamais quand même à ce niveau-là. Donc, il risque d'y avoir des gens déçus, des gens qui rentrent pas dans la catégorie prouver son analphabétisme, alors qu'ils n'atteindront quand même pas ce niveau-là. Enfin,
je vois.
Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est tout à fait l'intérêt de notre collaboration avec Lire et Écrire. Nous, on n'y connaît rien là-dedans. Nous, ce qu'on sait, c'est ça, c'est la législation antidiscrimination. Donc, quand on va recevoir le texte, on va envoyer soit d'une façon ou d'une autre ce texte en disant « Vous en pensez quoi, vous, par rapport à votre public ?» Et donc, on va avoir besoin des retours du terrain pour nous dire « puant » ou « ouais, topissime ». Et nous, on va le transmettre en avis. On fait toujours ça dans les... Enfin, on ne peut pas être spécialisé dans tout. Nous, c'est juste la législation antidiscrimination. Le reste, on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de collaboration. C'est vraiment pour savoir ce qui vit
sur le terrain. Oui.
Oui, il y a un cas, en tant qu'écrivain public, j'ai souvent des personnes à faire des dossiers, demande d'allocation ou de prime. Et il est bien indiqué que les dossiers qui sont rendus par voie numérique, par Internet, seront traités tout de suite et les autres seront traités plusieurs semaines après. Mmh. Est-ce que c'est de la discrimination ou bien est-ce que c'est...
Bah, oui, oui, on peut vraiment dire ça, oui. Il y a une différence de traitement. Donc, il y a un problème.
C'est-à-dire que les dossiers papiers, on comprend que ça prenne peut-être du temps à régler le truc, alors qu'on parle.
Non, je pense que c'est une politique et une. Je pense que c'est aussi une volonté de dire, de lancer un signal aux gens en disant travaillez via les formulaires numériques plutôt qu'avec le papier parce que ce sera plus vite. Et c'est partout comme ça pour l'instant, donc c'est un message que les opérateurs font passer. Abandonner le papier au profit du numérique, ce sera plus rapide, ça coûtera moins cher, ce sera ci, ce sera là.
Et je voulais te demander, par rapport aux bourses d'études, par exemple, là il est mis, les dossiers, donc si on ne sait pas le faire par Internet, on doit le faire par envoi recommandé. Mmh. Et il est mis, les dossiers seront traités par ordre d'arrivée. Donc il n'est pas mis celui-là avant celui-là, par ordre d'arrivée. Et en bas de la page de leur site, il y a un numéro vert et on peut prendre un rendez-vous si on a des difficultés pour aller dans leur bureau. Mmh. Est-ce que...
C'est suffisant, c'est ça ta question?
Oui. Parce qu'on a beaucoup d'arguments, alors là.
Et là, la problématique, c'est que les dossiers sont traités par ordre d'arrivée plutôt que par ordre d'envoi.
Oui, là, il n'y a pas de problème.
Hein?
Ils ont changé leur page il n'y a pas longtemps, parce que quand on faisait notre cahier de revendication, on était allé voir et on s'est dit qu'on devait être un peu plus prudent, un peu plus nuancé sur les bourses d'études que par rapport aux inscriptions, parce que je trouve qu'ils ont fait des efforts. Et effectivement, si on le fait par voie postale, comme dans tous les autres services, ça nous coûte soit un recommandé, soit un timbre. Ça, c'est pas
il y a le coût, il y a le coût. Ouais. Un recommandé, c'est 8 euros ou 5 euros. Ouais. Donc, il y a un coût supplémentaire par rapport à l'envoi d'un mail.
Ça, ça a toujours été le cas.
Voilà.
Là, c'est juste une voie supplémentaire, le numérique, qui est gratuite. Mais, enfin, gratuite, hein, on s'entend. Mais ça, ça a toujours existé. Donc ça, je ne pense pas qu'on puisse aller dessus. Par contre, on ne s'est pas encore positionné sur les bourses et on rencontre des collaborateurs de les réécrire, je pense, jeudi, pour en discuter. Moi, je ne connais pas bien la problématique. C'est une collègue qui est sur l'enseignement qui va aller la voir. Moi, je pense que si c'est par ordre d'arrivée, ça paraît logique dans leur système d'organisation. Maintenant, peut-être qu'ils pourraient tenir compte de la date d'envoi pour aller mettre si la possibilité d'obtenir une bourse dépend de son ordre chronologique. Ça, ce serait dramatique de dire « Ah bah oui, mais on attend l'arrivée d'un courrier postal. » Donc là, peut-être que ce serait négociable. Mais il faut voir si au niveau de l'organisation, on est dans la proportionnalité. Hein. Je pense qu'au niveau de l'organisation, ils peuvent le faire.
Je me dis, bon, c'est une possibilité, hein, mais les gens, là, ici, ont le choix entre une version numérique ou une version papier. Alors, effectivement, il y a le coût du recommandé et le coût du timbre. Pourquoi pas, si on veut demander un remboursement à la structure, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, par exemple, pour arriver à une égalité de traitement, demander le remboursement du timbre ou du recommandé?
Ben, c'est un supplément de travail, donc, pour l'institution, donc peut-être que là, la proportionnalité...
Pour moi, la difficulté là, c'est que ça existait déjà avant. En fait, on rajoute. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils rajoutent la voie du numérique à ce qui existait. Et puis, en fait, ce qui existait, ils font. On arrive sur le numérique. Et nous, on dit non, non, ça, il faut le garder. Et comme ça, on est là. Venir dire parce que le numérique est gratuit, en plus, on veut que ce qui existait avant est gratuit. Là, on est dans le futur plus 10 ans de nos revendications. On n'est pas là. Pour l'instant, on est vraiment à maintenir ça, s'il vous plaît. Mais on peut y réfléchir, hein. On n'y a jamais pensé, donc je pense que ça va être réfléchi dans le groupe Fracture numérique. Merci pour l'idée.
apparemment, effet de la logique, il n'y a pas encore de cadre réglementaire concernant la numérisation des procédures administratives. Est-ce que vous, cette donnée, cette information-là, ça peut être un plus pour le travail du monde du traitement des signalements? En fait, ça ne pose pas grand-chose en termes de cadre réglementaire.
Il y a un texte à Bruxelles.
Ouais.
Il y a un texte à Bruxelles, mais il n'y a pas un texte. Mais voilà, maintenant, on est dans un pays fédéral, donc en fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une coupole, un texte coupole qui cadre tout le.
Non, mais donc il y a une obligation européenne, hein, c'est ce qui est utilisé au niveau bruxellois pour justifier l'ordonnance. Ouais. Et en fait, chaque entité, que ce soit l'État fédéral ou les entités fédérées, vont devoir mettre en œuvre cette obligation européenne. Cette obligation, ouais. Donc pour l'instant, effectivement, le seul cadre, c'est à Bruxelles, au niveau de la fracture numérique. Et oui, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un cadre qui soit généralisé et comme ça, qu'il y ait un accès aux services publics qui soit le même partout en Belgique, ça ce serait vraiment top, avec les mêmes règles pour que ce soit plus facile. Mais on reste dans un État fédéral. Hein.
Mais il y a une obligation européenne, donc normalement les pays devraient se conformer et les législations des entités internes au pays devraient se conformer à ce texte européen, mais pour l'instant ce n'est pas le cas.
Parce qu'il me semble que c'est pas vraiment que je me suis plus penché sur ce cadre européen, mais il me semble qu'il est assez large et interprété de différentes manières, et donc mettre en œuvre les numérisations des procédures administratives, par exemple, de différentes manières aussi. Donnez-moi, je pense que c'est le digital d'agriculture, mais donc, par quelque chose, ça ne veut pas dire non plus digital d'agriculture.
On est d'accord.
Donc,
ça dépend de la manière dont on le lit, quoi.
Mais ça, c'est la loi, hein. Elle est toujours susceptible d'interprétation. Et généralement, au niveau européen, c'est très large. Et c'est à l'État de mettre en place de façon plus... concrète les législations. Et pour l'instant, ce qu'on voit à Bruxelles, c'est que la concrétisation, elle se fait en faveur du numérique et absolument pas sur le reste. Et c'est là qu'on doit dire non.
Oui. J'ai deux questions. Donc, dans les signalements, est-ce que vous travaillez avec des interprètes ou pas ?
Interprètes langue étrangère ?
Oui.
Oui.
Ok. Super. Et la deuxième question, c'est qu'au tout début, vous avez dit on n'est pas compétent sur les compétences liées à la langue.
Oui.
Mais qui est compétent du coup ?
Personne. Mais, attendez, la langue, quand on dit la langue, c'est vraiment flamand ou allemand.
Ah.
Ou l'accent, l'accent liégeois. Il y a des liégeois, non ? c'est pas accent d'origine étrangère, parce que là, on est sur indirect origine étrangère. On est sur indirect origine nationale. Donc, on arrive à avoir tout ce qui est accent origine étrangère, statut de séjour, etc. Là, on vient sur de l'indirect origine. Donc, c'est vraiment...
C'est le communautaire, quelque part, et le plus localiste, quelque part, qu'on ne peut pas traiter. Mais là, pour les personnes d'origine étrangère, on parvient à le relier à un critère existant qu'on peut traiter.
Moi, j'avais une petite question, mais c'était plus pratico-pratique. Tout à l'heure, vous parliez de dépôt de signalement.
Ouais.
Et de structure, enfin, qu'une structure pourrait éventuellement déposer un signalement par rapport à une autre.
Ouais.
Est-ce que c'est obligatoirement toute la structure, enfin, ça doit être obligatoirement au nom de la structure, ou alors c'est par exemple un travailleur social qui constate des discriminations qui pourraient faire le dépôt sans prendre le chapeau de sa structure.
Nous, ça, on s'en fout,
ah oui.
A priori. Quand vous nous faites un signalement, on va traiter ce signalement. Si vous le faites au nom de votre structure ou à votre nom personnel, on va prendre le signalement. Maintenant, si c'est l'irréécrire, par exemple, qui nous fait un signalement et qu'on porte le truc de l'irréécrire, ben on va porter l'irréécrire avec nous, sauf si l'irréécrire nous dit... Mais... ça va être plus fort pour la structure si vous avez un accord en interne. Mais si vous, en tant que travailleur social, vous nous envoyez le signalement en disant « Ouais, il y a cette situation-là », nous, on peut le traiter, mais alors ce ne sera pas au nom de les réécrire.
Oui, mais comme tout à l'heure vous disiez justement, ben, parfois on n'ose pas parce qu'on a des liens en fait au final avec cette association, cette structure voisine chez qui on voit des manquements. Ben, ça veut dire ben, dire à son supérieur qu'on a l'intention de voir s'il est d'accord de prendre partie, de se mouiller en gros par rapport à ça. Ben, là, ça peut être une solution si la hiérarchie ne veut pas se mouiller en tant que travailleur social, c'est-à-dire ben, moi j'y vais quand même. Quoi.
Mais ça, vous êtes plutôt, à mon avis, sur des signalements individuels, et ça, n'hésitez pas. Enfin, vous parlez de, j'imagine, dans un cas particulier, une structure qui déconne, vous avez envie de nous le faire savoir, vous nous envoyez un signalement, on ne va jamais dire de qui ça vient, et on peut intervenir. Mais c'est à vous de vous protéger par rapport à votre structure. Mais nous, on peut le faire ça en ligne.
Merci.
Et je me permets d'ajouter aussi, on demande toujours l'accord à la personne qui nous fait le signalement pour entamer des démarches. Donc soyez toujours rassurés, on va demander est-ce qu'on peut parler en votre nom, on préfère qu'on parle sous le couvert de l'anonymat, etc. etc. Donc vous restez acteur en fait du signalement. On peut l'arrêter aussi en cours. Si vous décidez d'interrompre les démarches, c'est votre choix. D'ailleurs, c'est d'où la différence entre une plainte et un signalement. C'est que la plainte, en fait, une fois qu'elle est entamée, la procédure est lancée. On ne sait pas réellement la stopper. Un signalement, on peut le faire. Quoi.
Okay. Et aussi, par rapport à ça, ça nous intéresse d'avoir des signalements. Même si vous savez qu'il n'y a pas de preuve, qu'on ne va pas aller en justice, en fait, quand on a 200 signalements au niveau de la fracture numérique, si on avait 1000, notre poids au niveau du lobbying et du plaidoyer serait plus important. Donc, des signalements, c'est bien, même si peut-être qu'on va vous dire... Ben, désolé, là on n'intervient pas pour nos chiffres, c'est impeccable.
Et si par exemple on souhaite faire un signalement au nom d'une association, au nom d'une structure, et qu'on est témoin de diverses situations de discrimination, on peut alors en parler à l'amiable. Est-ce que à chaque personne qui a vécu une situation particulière de discrimination, est-ce qu'elles doivent toutes associer en fait? Est-ce qu'on doit toutes les recenser, leur demander à chacune? Parce que en fait, nous, au niveau de la population sourde, on est témoin d'un certain nombre de discriminations. Mais les gens, en fait, ont peur que leur nom soit donné, ont peur aussi des frais de justice. C'est pour ça que pour eux, avoir un signalement individuel, c'est assez lourd. Et pourtant, ce sont des situations assez similaires, en fait. Hein, et donc, on aimerait pouvoir recenser toutes ces situations, en faire part à une mais comment, au niveau méthodologique, on peut procéder, si on veut le faire au nom de l'association.
Alors un premier point par rapport aux frais de justice, sachez qu'on a reçu des fonds et qu'on a un subside pour certaines personnes vulnérables qui n'ont pas accès à l'aide juridique et parfois on peut prendre en charge les frais d'avocat. Ça c'est une chose. Une deuxième chose par rapport à ça, c'est que ça dépend de l'objectif du signalement. Si c'est un signalement, imaginons au niveau de la fracture numérique, où vous voulez juste nous dire, ben voilà toutes les situations de fracture numérique qu'on a rencontrées, ça vous nous envoyez un mail avec... toutes les situations de fracture numérique rencontrées, pas besoin de mettre le nom de la victime, ça ne nous parle pas. Si vous ciblez un supermarché en particulier, une banque en particulier, vous le mettez, alors là il faut expliquer la situation individuelle. Si vous pensez qu'au niveau individuel c'est bien qu'on intervienne, donc on intervient auprès de certains supermarchés, certains hôpitaux, certaines banques qui ne respectent pas et qui discriminent au niveau de la fracture numérique. Par contre, si c'est plus au niveau global pour dire, ben voilà, ça vous fait des signalements, on augmente le nombre, vous expliquez juste les situations et nous, on va prendre ça comme signalement structurel. Vous devez mettre le nom de la victime et là vraiment expliquer la situation quand vous voulez un traitement individuel. Si vous voulez qu'on prenne le signalement et qu'on aille négocier, par exemple, des aménagements raisonnables dans une banque, là, on a besoin du nom de la personne vraiment pour pouvoir le traiter de façon individuelle. Mais sinon, les problématiques générales, nous, elles, on sait qu'on a... sur 100 signalements il y a 2 ans, eh ben, il y avait 30% qui étaient contre un supermarché en particulier qui avait une... Les réductions passaient via app. On s'en fout de savoir qui nous a signalé ça. Nous, on prend contact avec le supermarché en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ?»
Je voulais peut-être demander, est-ce que vous avez reçu des infos par rapport au passage de Bipost vers BNP Paribas,
la clôture des comptes.
Voilà, parce que nous on est en train d'essayer de rassembler de l'info au niveau de lire écrire sur ce qui se passe. Il y a certaines régionales qui m'ont dit ils ont travaillé que là-dessus pendant une semaine. Donc en fait, en septembre,
Je crois qu'il y a un courrier qui a été envoyé aux personnes qui avaient un compte chez Bpost. Et donc, pour leur dire, voilà, vous allez changer de banque. Il y a un algorithme qui a fait que les personnes plutôt digitalisées étaient envoyées directement vers un pack, si tu veux, un pack qu'on payait 5,50. Et celles qui n'étaient pas digitalisées, un algorithme les envoyait vers un pack moins cher, 2 euros par mois, avec comme relais la poste et les guichets postaux. Tandis que les autres sont plus envoyés vers les agences BNP Paribas. Ça, c'est ce que j'ai lu comme info, j'ai pas de preuves, hein, mais c'est vrai que notre public, sont peu digitalisés, en majorité, mais j'ai pas les faits encore, ils ont quand même été envoyés vers la poste. Alors, donc, ça veut dire qu'ils vont devoir quand même mettre en place une application. Parce que ces deux comptes sont des comptes surtout digitaux quand même. Donc ils doivent mettre une application BNP Paribas, ils n'y arrivent pas. Donc les formateurs, les gens dans les régionales sont en train de passer un temps fou, le faire, les accompagner. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait des files incroyables. Ce jour-là, c'est après le week-end du 22 janvier. Donc il y avait beaucoup de files parce que les gens n'ont plus de compte, ne savent plus faire leur virement. Enfin voilà, ils sont en grosse difficulté. Donc on était en train de travailler cette question. Il y a une régionale ici qui m'a dit qu'on avait même il y a des apprenants qui étaient venus avec une demande d'attestation pour prouver qu'ils étaient peut-être en difficulté pour avoir une aide, je ne sais pas trop. Et je vois qu'il y a un troisième pack gratuit. Celui-là, on ne leur enseigne pas trop. Mais celui-là, il est 100% digital. Dans les deux autres, donc les 5,50 ou 2 par mois, là, on a 6 transactions gratuites, donc 6 transactions manuelles gratuites. Et après, c'est 2 euros par transaction. On ne leur parle jamais du service bancaire universel, ni au service bancaire de base, ou des choses comme ça. Ça, c'est l'info... Je ne sais pas si ça... Enfin, j'ai lu un rapport de Financité qui travaille sur ça, et ils disent qu'en fait, il y a eu un boom dans le service bancaire de base quand il y a eu les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés. Ouais. Ils ont eu beaucoup ce type de compte. Et l'autre, il est très très peu. Il y a une centaine de comptes, je crois, qui se sont ouverts. Je me disais, il y a plein d'infos il y a plein de choses qui se passent chez nous. Je ne sais pas... si on va pouvoir rassembler des dossiers un peu plus costauds. Mais je ne sais pas si ce sera intéressant qu'on vous fasse remonter peut-être des choses, et si vous avez déjà reçu des choses.
On a des signalements à ce sujet-là.
On a reçu un signalement, mais je ne connaissais pas toute la problématique derrière, mais quelqu'un m'a expliqué la transition de poste et la suppression de guichet. J'ai vu passer le signalement. Ça, on a, mais c'est, je crois, la seule chose pour l'instant, mais je pourrais demander aux collègues. Mmh. Donc, on ne s'est pas du tout encore investi sur le projet. Et ce que tu disais par rapport aux deux types de comptes, le compte universel et le compte bancaire de base. Donc le compte bancaire de base, c'est un compte qui est accessible à toute personne qui a une résidence légale en Belgique. Et l'objectif, c'est vraiment de viser les migrants, donc demandeurs d'asile, etc. Le problème, ça c'est vraiment avec trop de dossiers structurels qu'on a, c'est que les banques ne l'aiment pas parce que ça leur rapporte aucun argent. Mais ils sont obligés de le mettre en place. Et là aussi, on essaye de... Parce qu'on a très souvent des associations ou faits d'asile qui viennent nous voir avec énormément de signalements. On essaye vraiment de créer quelque chose. On a déjà été négocié avec Fédelfine, etc. C'est une grosse difficulté. Mais ça vise vraiment... C'est la question de la résidence, en fait, parce que c'est les personnes qui n'arrivent pas à obtenir un compte en n'ayant pas un titre de séjour longue durée. Le compte universel, ça c'est un lobbying de Financité et Test-Achat qui vise plutôt le public des personnes âgées, donc le public victime de la fracture numérique, qui avait vraiment besoin d'obtenir les extraits de compte encore papier, etc. C'est au moment de la disparition de toutes ces modalités, et ils ont négocié ce compte-là. Mais ça c'est beaucoup plus récent, je ne sais pas exactement.
Il y a 200 comptes qui existent en Belgique, pas plus.
Et donc c'est vrai qu'on pourrait vraiment faire la pub, mais c'est pas non plus
mais ça coûte quand même 60 euros minimum, enfin ça dépend des banques, mais ça coûte à peu près 60 euros par an, donc si tu fais 5 fois 12, c'est pas vraiment gratuit non plus. Hein.
Non.
Mais là c'est illimité au niveau des opérations manuelles.
Ce compte universel, c'était vraiment une négociation à l'époque de Test Achat et de Financité, mais c'est vrai que si jamais vous venez avec le dossier, on pourrait regarder. pour voir si ce compte, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus, est-ce que ce compte est vraiment adapté, ça va être ça.
Et alors c'est un algorithme, tu vois, qui déjà choisit
public.
Et le troisième compte, pour l'avoir, c'est... Moi j'étais ancienne cliente BNP, évidemment, j'ai été mise vers le compte 5-5, hein, puisque je suis digitalisée. Et j'essaye d'avoir le compte 100% digital gratuit, mais quelle aventure pour essayer de le décrocher, je ne suis pas encore parlé.
Non, il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous avez nos contacts. Pour nous, c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir partager et discuter.
Plus rien, non? Plus de remarques?
Merci d'être venu.
Merci en tout cas. Merci beaucoup, c'était fort intéressant.
Au revoir.
Au revoir.